La méditation est de Saint Jean Chrysostome. Rien n'est plus froid qu'un chrétien qui ne cherche pas à sauver les autres. Et personne ne peut ici présenter sa pauvreté. Celle qui a donné ses deux piécettes pourrait être accusée. Chacun peut être utile à son prochain s'il consent à remplir sa mission. Ne voyez-vous pas comme les arbres sans fruits sont forts, beaux, élancés, lisses et élevés? Mais si nous avions un paradis, on préférerait ces arbres de beaucoup, les grenadiers et les oliviers pleins de fruits. Les autres sont pour faire joli, ils ne sont pas utiles. Leur utilité est bien mince. Tels sont ceux qui ne visent que leur propre vie intérieure. Tel était celui qui avait enfoui son talent. Sa vie était irréprochable. Mais elle n'a sauvé personne. Comment un tel homme peut-il être chrétien? Dis-moi. Dis-le-moi si le levain mêlé à la pâte ne la fait pas monter tout entière. Est-ce qu'on peut dire que c'était du levain? Écoute-moi, si le parfum n'exhale pas sa bonne odeur pour ceux qui approchent, comment peux-tu l'appeler parfum? Alors si tu te dis, moi, il m'est impossible de ramener les autres. Eh bien, moi, je te dis, si tu es chrétien, il est impossible que cela n'arrive pas. Dans la nature, il n'y a aucune contradiction. Et pour la foi, c'est pareil. C'est dans la nature même du chrétien. Que le chrétien ne soit pas une insulte pour Dieu. Si tu dis au soleil, tu ne peux pas briller, tu l'insultes. Si tu dis qu'un chrétien ne peut être utile, tu insultes Dieu. Tu fais de lui un menteur. Parce qu'il est plus facile pour le soleil de ne pas chauffer ni briller que pour le chrétien de ne pas rayonner et ne pas sauver tous les autres. C'est vrai, le chrétien, c'est un soleil au milieu de la ténèbre. Si vous concevez, si vous mettez au monde un enfant, Et écris. Il est dans la perdition. Pour toujours. Si vous le baptisez, il devient un soleil pour tout l'univers et pour toute l'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus habite en lui. Et c'est plus la perdition éternelle qui marque son âme et sa chair. Mais c'est là, c'est Jésus. La présence réelle, personnelle de Jésus, éclatante, et qui s'engloutit, habite et se déploie dans son âme, rayonne sa chair, c'est devenu un soleil. Le soleil, c'est un soleil levant qui est venu visiter le monde. Il vient d'être baptisé. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est sûr. À partir de rien, Dieu a fait éclater un soleil et depuis, le soleil brûle, réchauffe, rayonne, se rabonde, chasse les ténèbres, féconde tout, partout. Il apporte son rayonnement. Le royaume de Dieu. À quoi est-ce qu'on peut le comparer? Quand Jean-Baptiste se fait visiter par Marie, il a été baptisé comme ça. Trois mois avant de naître, il est devenu le soleil. C'est ce que dit Saint Joseph dans le psaume, à l'apparition de Jean-Baptiste. Le soleil et le vent est venu nous visiter. C'est l'astre d'en haut qui resplendit au milieu de la ténèbre et l'ombre de la mort. C'est le seul soleil qui quitte tous les pas. Et qui les fait aboutir dans le royaume de dans le chemin qui aboutit à la gloire de Dieu. À quoi est-ce qu'on peut comparer un petit enfant tout petit comme Jean-Baptiste? Il a été visité par le soleil. Il est devenu le soleil. Il était visité par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit lui était donné. Le Saint-Esprit, c'est Dieu tout entier. C'est vrai. Le baptême, le Père, resplendit de tout le soleil de son unique gloire. Le Fils unique de Dieu. C'est le parfum intime et éternel de Dieu avant la création du monde, la liquéfaction de Dieu. C'est pour ça l'état de Dieu, le Verbe de Dieu, les délices de Dieu. C'est tout ça, c'est le Fils de Dieu, la conception même de Dieu, l'extase, le ravissement de Dieu. La poussette à Dieu, poussée en Dieu. dire comme ça, dans un chapelet, les 33 attributs de la deuxième personne de la très sainte Trinité qui sont propres. Et bien dans le baptême, les trois sont le Dieu unique à chacun d'entre eux. C'est Dieu à lui tout entier. Et quand on est dans la responsabilité, le soleil brûlant et qui brille éternellement dans la gloire éternelle, et du monde incréé, de l'extase, du rabaissement, de la commotion, l'effacement, d'extase, de rabaissement, des délices, des parfums intimes, de responsabilité en Dieu, ça c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. C'est le Dieu unique. Il faut dire la même chose pour les pauvres, il faut dire la même chose pour Dieu dans sa propre source, pour Dieu dans ce qu'il est, pour Dieu dans ses substances, pour Dieu dans sa miséricorde, dans sa miséricorde éternelle, je veux dire, mais dans son amour. Inconditionnel. De lumière. D'inspiration active. Irrésistible. Ça, c'est la première personne de la Trinité. C'est la première personne de la très sainte Trinité. Première personne dans la Trinité, c'est le Dieu unique. Il n'y en a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Le Saint-Esprit faudrait pénétrer, déployer dans le monde sans limite et sans fin les profondeurs de la substance et de la personne, tout ce qui est propre au Saint-Esprit. Une joie incréée, éternelle, une allégresse, aspirant tout Dieu, de manière que Dieu est entièrement aspirant lui, que à lui tout seul, Dieu tout entier. Ces trois-là, dans cette unité de profonde, resplendissent comme un soleil dans le baptême. Renouveler notre passage du néant et de la ténèbre. Nous étions prisonniers de la perdition éternelle. Faut pas l'oublier. Et d'un seul coup, on est passé à cet état. On est le temple de la très sainte Trinité. Présence réelle. Et de donner la vie divine à un tout petit. C'est notre plus grande gloire. À quoi est-ce qu'on peut comparer le royaume de Dieu? La création, toute la création du monde angélique, la création de la lumière de gloire, c'est-à-dire du débordement du face-à-face glorieux des personnes de la très sainte Trinité dans leur glorification éternelle. Mais se communiquant, rayonnant partout. La lumière de gloire crée des êtres comme ça. La création du monde angélique dans la lumière de gloire. Et ils sont introduits dans la lumière de gloire. Comme Jésus qui est introduit avec sa lumière de gloire à l'instant de sa mort, la seconde qui a suivi, il a introduit dans cette même lumière de gloire. Ils ont traversé Saint-Joseph, son papa. Ça fait quand même un changement, quand même, de passer de rien, du néant, au soleil, le vent qui vient de visiter, à la présence, à la très sainte Trinité, à la lumière de gloire, qui est le Christ, Jésus, notre Sauveur, l'agneau de Dieu. C'est Dieu. À lui tout seul, l'agneau de Dieu. Et Jésus, Dieu, a livré Jésus. Il s'est investi dans l'Immaculée Conception. Il a absorbé, assumé à l'intérieur de lui. La conception de rien, mais qui est plénitude de tout, c'est l'Immaculée Conception. Pour venir s'engloutir en elle et créer, parce que dans la création, il y a l'humanité de Jésus qui a été créée. Son âme humaine a été créée. Son corps, sa chair, son esprit humain, sa mémoire de l'origine, sa mémoire de l'origine et du oui, de Dieu. Sa lumière humaine débordant, dépassant à travers le corps. Son intelligence humaine de toutes choses, dans le soleil de la lumière de gloire dès le premier instant, et son amour humain entièrement étreint. Nature humaine de Jésus, elle est créée. C'est Dieu, bien sûr, qui vient se créer une nature humaine. Tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà ce que l'ange Gabriel a dit à Saint Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà ce qu'il a dit. La création tout entière. Nous la portons. Hein. On sait bien, nous, on est, depuis qu'on est tout petit, conçu, enfant embryon, on sait très très bien. Tout entière, c'est nous qui la portons. À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu? Jésus pose cette question deux fois aujourd'hui. À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu ? C'est incomparable. À quoi puis-je le comparer ? Mais le petit, tu sais, qui porte. Et la création tout entière, elle a été jetée au livré. Elle était livrée au pouvoir. Elle était livrée au pouvoir des ténèbres. Elle était livrée à la corruption. Elle a été livrée aussi au néant, la création tout entière. Et c'est pas de son plein gré que la création tout entière a été livrée pour aux ténèbres et au néant. La création, la matière, les oiseaux, les poissons, chaque goutte d'eau, chaque fleur, chaque le monde angélique, c'est pas de son plein gré, hein. La lumière de gloire a pénétré dans la croix par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur, t'es plongé dans le néant, la ténèbre. Toute la création était plongée dans la ténèbre. C'est pas de son plein gré. Hein. On sait très bien ce que c'est que la création, puisqu'on la porte. Nous sommes le résumé de la création, le concentré. Le point aspirant et récepteur de la création. Nous sommes la mémorial Dei. Notre oui au Jésus n'avait pas dit oui à ce que nous sommes, nous n'aurions pas pu exister. C'est librement que nous sommes l'image, la ressemblance de Dieu, de la mémoire. C'est-à-dire la présence réelle de l'unité, de la création tout entière, dans l'unité d'émanation de Dieu. Dieu lui-même est dans l'unité de l'un, Adonai Echad. Et sa communication dans le principe de la création se trouve être dans l'image ressemblante en nous. Et aussitôt, cette petite créature conçue est livrée au pouvoir du néant et de la perdition. Mais c'est pas de son plein gré, hein, que nous avons été livrés au pouvoir de la perdition éternelle. Alors, il va y avoir le baptême. À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? À quoi puis-je comparer le royaume de Dieu? Et je suis l'antienne de l'Église, ça, tu l'as révélé au tout petit, au tout petit. Et c'est pas de son plein gré. C'était livré au pouvoir du néant, à Satan, quoi. La création, faut le comprendre, ça. Ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 8. L'Église donne le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, à partir de depuis une semaine, depuis le début de la semaine. Et là, on va rentrer dans ce gémissement de la création, parce que l'épître aux Romains, c'est extraordinaire. C'est Dieu, le Père, Dieu. Le Fils, c'est Dieu, le Fils, hein, c'est Dieu. Poussé, c'est Dieu, la joie. L'Éternel a créé le Dieu unique, c'est lui le Dieu unique à lui tout seul, qui a l'est, qui s'est en. Qui a créé. Ah, il a créé sa propre nature humaine. Jésus a été créé. La nature humaine de Jésus a été créée. Il l'a livrée. Dieu vivant a livré la nature humaine de Jésus. Il l'a livrée. Il l'a livrée. Il l'a livré à l'infamie, à la mort. Il n'a été que mort, vivante, effroyable, agonisante. Gémissement substantiel d'amour et de rédemption a été livré. C'est Dieu qui l'a livré. L'humanité de Jésus, la création aussi. C'est marrant parce que, bon, c'est pas marrant. Dans le principe, il est dit que Dieu a créé. Dans Dieu, dans le principe, Bereshit bara Elohim, Dieu a créé le ciel et la terre. Le monde angélique, la lumière de gloire, et l'humanité toute entière, et la terre de Jésus qui porte. Voilà, il a créé le ciel et la terre. Il a dit que la lumière soit, et aussitôt il y a eu les ténèbres. Il y eut alors la ténèbre et la lumière. Et comme il y a eu la ténèbre, alors, dans le métrage de Moïse, sur le métrage du Bara, de la création du Bereshit, le métrage du Bereshit, il dit ceci, voilà, il y a écrit tout comme ça. À l'instant où il crée, il y a quelque chose qui se dit à l'intérieur de Dieu. Oui, mais si à la ténèbre, si la communication d'une telle bonté, d'une telle joie, d'une telle gloire, d'une telle presque substance vivante communiquée se perd, enfin, s'il y a la perdition, si la création se s'écarte, enfin, s'il y a. Si les libertés, si la mémoire des ne s'embrasse pas immédiatement pour s'engloutir et la porter et la recevoir et le faire produire son fruit éternel dans le royaume de Dieu, si ça ne se faisait pas, alors le Midrash explique que la vérité tout entière est vivante à l'intérieur de Dieu et qui se dit ça, si c'est ça. Alors, la vérité sera projetée dans la terre. Elle sera jetée. C'est ce verbe-là, elle sera jetée dans la terre. Et la création a été jetée dans le néant. Et c'est pas l'épître aux Romains, c'est quand même. C'est fort de dire ça, non? Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Bon. Jeter, c'est le même verbe, hein. Sauf que dans le Bereshit c'est en hébreu, et l'épître aux Romains c'est en grec. La plus grande souffrance, la plus grande croix, la plus grande oppression, la plus grande angoisse, la plus grande ténèbre, la plus insupportable. La plus grande humiliation, la plus grande horreur, la plus grande dévastation que Jésus ait subie en étant comme ça, celui qui est jeté dans la ténèbre. C'est Dieu le Fils. C'est le Dieu vivant, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu unique qui la lui inflige. C'est l'éternelle divine volonté. Qu'il soit livré, jeté et crucifié. À cette heure. Vie, tota vita Christi crux fuit ad que martyrio. Et le plus grand bourreau de Jésus, c'est Dieu le Fils. Et c'est dans son hypostase. Parce qu'il a, là où il a le plus souffert, le plus, c'est par Dieu. Par sa propre personne. Son union hypostatique. Dans son union hypostatique. L'application, presque, c'est pas une question de limite, c'est sans limite et sans fin, c'est une application quasi substantielle de mort, de cri, de gémissement. Et pourtant, il est quand même là, dans la lumière de gloire. À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu, hein? Et c'est dans cet état qu'il dit à quoi vais-je comparer et le royaume de Dieu. Il y a même une petite goutte au milieu de cet océan, sans limite et sans fin, d'agonie, de martyr, d'anéantissement, d'infamie. Tu peux pas penser humainement à une infamie plus grande, faite à un être humain, par tous ceux qui l'entourent, Dieu y compris. Il y a quand même une petite goutte d'eau, c'est l'Immaculée Conception. Parce qu'elle est une création aussi, mais c'est une créature qui, contrairement à ce que dit le Bereshit, le Midrash du Bereshit de Moïse, il dit qu'il y a sept choses dans l'acte créateur de Dieu, le Bereshit, créateur de tout ce qui est. Il y a une goutte. Il s'est dit, hein. C'est l'Immaculée Conception. Il y a l'Immaculée Conception. Elle est dans la croix de Jésus. Elle est le oui à la croix de Jésus. Elle est le temple de la croix de Jésus. Elle est le temple de Jésus. Elle est le temple du soleil et le vent qui vient nous visiter, qui illumine tous ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Il vient libérer tous ceux qui sont totalement enfermés par Satan, le pouvoir de Satan. Vous vous rendez compte? Justement, on ne se rend pas compte de ce que représente le pouvoir du démon. Et sa rage. Sans limite et sans fin, il est possédé par les purulences des dévastations, des océans, des océans, des océans, des soleils noirs, si je puis dire, continuellement, presque. Alors là, pour le coup, sans limite et sans fin, dans l'intensité et dans l'extension. Et son royaume, c'est notre univers. On ne dira jamais assez ça. Eh bien, Jésus est venu nous le révéler. Je suis venu pour dévoiler et qu'il soit jugé, démasqué dans ce qu'il est. Et l'esprit de ce monde aussi qui sont démasqués. Venu pour un jugement. Et dans la lumière de la croix, cette libération, c'est quand même extraordinaire la libération. On est prisonnier complètement. Mais il y a cette goutte d'eau qu'on mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Ah, il y a une respiration, Pérusite. Il y a une respiration dans la toute petitesse immaculée, la toute petitesse du oui immaculée de chacun de nous. Il y a une libération. Il y a une libération. Et il faut bien le dire. Il faut le dire clairement. Il y a une libération, cette petite goutte d'eau dans la création angélique. Elle y est présente. Elle y est présente, elle a dit oui. Elle a dit éternellement. À l'amour éternel du Dieu unique. Donc elle est présente au monde angélique au moment où il est affronté à sa propre épreuve. Et où il doit choisir d'être Satan ou d'être Séraphin. Dans la lumière de gloire. S'il n'y avait pas cette goutte d'or de l'image ressemblance de Dieu, qui dit oui, c'est même, voici, et où Dieu donc peut s'exprimer à n'appartiennent pas, ou ils ne s'expriment pas dans sa allégresse, sa joie, sa liberté, son amour, sa tendresse, tout ça. Même le monde angélique n'aurait pas pu affronter l'épreuve. À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu alors? À quoi vais-je comparer? Comment est-ce que je vais faire comprendre ça à la création tout entière? C'est comme si j'y étais. Ah, ça y est. Je vais, voilà. C'est comme une femme. C'est une femme qui prend trois mesures de farine. Qui prend, non. Donc, c'est une femme qui prend. C'est extraordinaire, ça. Du levain. Et le plonge. Dans trois mesures de farine. Jusqu'à ce que la pâte toute entière soit levée. C'est pas extraordinaire, ça? C'est pas inouï, ça? C'est pas génial? Bon, que Jésus soit génial, c'est pas une découverte, mais c'est prodigieux. Et je crois qu'il y a des chrétiens qui disent, moi l'immaculée conception, conception, je ne connais pas, je m'en fiche, je me dégage, je la marie. Comment tu peux dire que le soleil ne brûle pas? Il ne réchauffe pas, il n'éclaire pas. Comment tu peux dire que le chrétien, c'est pas le royaume de Dieu? Comment tu peux dire que c'est pas la femme qui prend? Oui. Triple mesure de farine. Jusqu'à ce que la pâte est levée. Et puis juste quelques secondes avant, il avait dit. Ah oui, je sais, je vais comparer ça. Ces petites graines. Petites graines. De moutarde. Quelqu'un prend. Et il l'enfonce, il plante dans la terre du jardin. Dans la terre du jardin. Il l'enfouit dans la terre du jardin. Et ça devient un arbre jusqu'à ce que. Ça devient un arbre. Et un arbre, le plus grand du jardin du Paris, plus grand, plus grand. Et l'ombre, il fait l'ombre ombration, jusqu'à ce qu'il soit l'ombre ombration de tout le pain, de tout le jardin. Et tous les anges, tous les oiseaux qui viennent se mettre dans lui, ça. Ah ouais, ça, c'est qui ça? Ah, vous n'avez pas compris qui c'est, voilà, c'est que la femme, comme la femme. C'est toujours autant, c'est comme la femme. Les oiseaux, les anges qui viennent dans l'arbre, qui embombrent tout le jardin du paradis terrestre et céleste. C'est la reine immaculée de l'univers. Et son chiffre, c'est 555. Et les trois mesures de farine jusqu'à ce qu'il y ait la clarification du Fils unique de Dieu qui les poussait dans la clarification à créer. C'est la mère de Dieu. C'est elle qui l'engendre. Dans trois mesures de farine. Dans l'hostie vivante qui nourrit et rassasie le Père. Et absorbe le Saint-Esprit, si je puis dire. Dans sa propre soleil éternel. Et son chiffre, c'est 888. Voilà. Oui, si un jour vous vous embêtez, prenez la Bible. Et pendant une demi-heure, vous lisez comme ça. Et vous ne savez pas quoi choisir. Prenez le chapitre 8. De l'épître aux Romains. Ta création tout entière. Et c'est là qu'on voit que la petite goutte d'eau, le véritable Israël de Dieu, la véritable Jérusalem, véritable combat, Israël, Israël, c'est la chair qui est en lutte continuelle entre Dieu et la création tout entière, le lieu de la lutte. Israël, et Dieu le regarde sans arrêt, elle. Chapitre 8, 9, 10, de l'épître aux Romains, c'est extraordinaire. C'est quoi la Jérusalem? Jésus, bon, il a fait d'abord miséricorde à Israël, à Jérusalem. À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Ben, à l'éclosion immaculée d'un oui pacifique. Se donnant librement, de plein gré, jusqu'au fond de la substance de Dieu, dans la Jérusalem dernière. Le pape a ouvert les portes. L'Eucharistique dans les trois mesures de farine. Pour s'exhaler le parfum de Joseph, enfant, tout petit. Qui fait le fond de la Jérusalem nouvelle qui va venir. Et dans nous sommes le temple. Là oui. La condition nécessaire. Le chrétien qui dit non, c'est pas mon truc, c'est impossible. Que ce soit vrai. Non, le chrétien. Il reste 29 jours. Alors on voit, vous verrez, que la prière qu'on célèbre la nuit, par exemple, pour le véritable Israël de Dieu, au passage, le véritable passage de la mer Rouge, le véritable passage, Pâques-Eucharistique dans la mer, le véritable passage dans le rocher ouvert, Moustatira, la croix glorieuse, dans les fontaines d'eau jaillissantes, les parfums de permettre. Le véritable passage du jour, dans le véritable passage dans le corps spirituel, de la terre promise, hein, avec le jardin où s'épanouit, j'ai la Jérusalem dernière. Le véritable, c'est le véritable Israël de Dieu, le véritable roi, la mission surnaturelle, divine, accomplie, définitive, invincible de la France, du royaume. À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Pourquoi est-ce que Satan sent, et du coup il a éventré Notre-Dame de Paris? Ce que représentent les entrailles de la maternité divine dans l'église tout entière, en trois mesures de Paris. Pourquoi il a choisi ça? Ce baptême avec Dieu, avec le monde angélique, dont nous sommes le temple, bénéficateur, récepteur, diffuseur, rayonnant comme le soleil. Nous visitons avec la petite goutte d'or, nous visitons chaque avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup de réalisme, enfant avorté, pour que se communique, hein, ça, ce passage. La perdition, l'emprisonnement pour l'éternité, à la libération des prisonniers, au baptême, à la communication de la vie divine, parce que l'agneau de Dieu vient déposer dans l'unique éternelle volonté de Dieu une petite goutte d'eau. Il vient y déposer, déployer sa propre vie divine, sa propre vie en lui, en cet enfant qui était marqué par la perdition, marqué par la mort, marqué par la rage. S'il n'y avait pas l'église de Jésus, ces enfants-là seraient des sources d'angoisse, de rage, de révolte et de satanisme dans le monde entier. Et c'est notre plus grande gloire que de donner la vie divine. Et on va le faire, on le fait selon le chemin, bien sûr, de l'ouverture de la nouvelle mer Rouge. Le nouveau Sinaï, le nouveau rocher qui s'ouvre, le nouveau jardin, le nouveau corps spirituel venu d'en haut, dans la Jérusalem, quoi. La femme. À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Et ça, c'est notre plus grande gloire. Nous appartenons du coup avec cet enfant avorté à un autre monde, à un autre univers, à un royaume, au royaume. Nous appartenons au royaume. Voilà, si je peux dire, non. La gloire qui glorifie responsable qui glorifie trois personnes de la troisième dans l'unique nature glorieuse de l'intardéma substantiel agréé de Dieu. Pour citer Boyer, jusqu'à ce que tout s'y soit déployé, jusqu'à ce que chacun ait pu y apporter sa participation essentielle. Et un chrétien, comme dit Saint Jean Chrysostome, qui ne fait pas ça, c'est impossible.